de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le premier ministre israélien visite la Maison Blanche la semaine prochaine et discute de l'Iran et de la Palestine. Erdogan promet que la Turquie protégera l'aéroport de Kaboul des talibans. Les États-Unis recommandent une dose supplémentaire de vaccin COVID-19. 11 villes françaises sont prêtes à accueillir des réfugiés afghans. Vaincre Anwar Ibrahim, Ismail Sabri dirigera la Malaisie. La sécurité des citoyens indonésiens en Afghanistan doit être une priorité, a déclaré un membre de la commission du Parlement. À travers le festival, la Fondation Borneo appelle à la conservation des orang-outans. Voici le journal complet. Le premier ministre israélien, Naftali Bennett, se rendra à la Maison Blanche pour rencontrer le président des États-Unis, Joe Biden, le 26 août. La deuxième réunion avait pour but de discuter d'un certain nombre de questions concernant les relations entre les pays. C'est ce qu'a déclaré l'attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, comme l'a rapporté l'AFP jeudi 19 août 2021. Psaki a déclaré que les deux dirigeants discuteraient également d'un certain nombre de questions. L'un d'eux concerne l'Iran et la paix israélo-palestinienne. Il a ajouté que la visite serait également l'occasion pour les deux dirigeants de discuter des efforts visant à faire progresser la paix, la sécurité et la prospérité pour Israël et la Palestine et de l'importance de travailler pour un avenir plus pacifique et plus sûr pour la région. Auparavant, le président israélien Reuven Rivlin avait rencontré Joe Biden en juin. Il s'est dit très satisfait de la détermination de Biden à empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son camp projetterait l'aéroport de Kaboul des talibans. Actuellement, les autorités turques se coordonnent avec d'autres pays, a déclaré Erdogan dans une interview télévisée rapportée par l'AFP jeudi 19 août 2021. La Turquie se coordonne avec les États-Unis pour aider à sécuriser l'aéroport de Kaboul. Les autorités américaines sont en contact permanent avec la Turquie sur les dispositions de sécurité pour l'aéroport de Kaboul. Les États-Unis eux-mêmes ont exprimé leur gratitude pour le rôle de la Turquie dans l'évacuation des civils de Kaboul. Erdogan a déclaré que la présence militaire de la Turquie en Afghanistan donnera un nouveau gouvernement un avantage sur la scène internationale. Il a déclaré que la Turquie était en pourparle avec les autorités afghanes. Erdogan a ajouté « Quiconque détient le pouvoir, la Turquie soutiendra l'Afghanistan ». Les responsables de la santé des États-Unis recommandent à tous les Américains de se faire vacciner contre la COVID-19. Il s'agit d'augmenter la protection contre la montée en flèche des variants Delta et de prouver que l'efficacité du vaccin est en baisse. Cela a été dit par un chirurgien général américain, Vivek Murthy, comme l'a rapporté Al Jazeera jeudi 19 août. Le Center for Disease Control and Prevention, ou CDC, ainsi que d'autres autorités de premier plan demandent des doses supplémentaires 8 mois après que les gens aient reçu leur deuxième injection du vaccin Pfizer ou Moderna. La dose de rappel peut être commencée le 20 septembre. Les responsables de la santé affirment que les personnes qui reçoivent une seule dose du vaccin Johnson & Johnson auront probablement besoin d'injections supplémentaires. L'annonce d'un plan de vaccination de rappel intervient alors que les États-Unis connaissent une forte augmentation des cas, des hospitalisations et des décès. Les États-Unis ont enregistré 13 885 décès dus au COVID-19 au cours des 28 derniers jours. Selon les données de l'Université Johns Hopkins, le nombre total de décès dus à COVID-19 aux États-Unis atteint 623 418 depuis le début de la pandémie. Les maires de 11 villes de France se sont déclarés prêts à accueillir dignement les réfugiés afghans. Ils ont exhorté le gouvernement à faire preuve de solidarité. Plusieurs maires appartenant à des partis de gauche et socialistes ont exprimé leur position sur les réseaux sociaux. Cela montrait la solidarité et l'humanité urgente envers les citoyens afghans qui sont menacés par les talibans. Rapporté par l'agence Anadolu, le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, a indiqué avoir écrit une lettre au ministère des Affaires étrangères et s'être engagé à accueillir quelques familles afghanes. La déclaration était en réponse au discours du président Emmanuel Macron lundi 16 août qui a souligné la nécessité de protéger l'Europe contre le flux de migrants irréguliers de la crise en Afghanistan. La déclaration de Macron a suscité des critiques et, je veux dire, la déclaration de Macron a suscité des condamnations et des critiques de la part des partis de gauche et socialistes. L'ancien vice-premier ministre malais Ismaël Sabri Yaakob se prépare à former le prochain gouvernement. Cela est intervenu après qu'il ait remporté la majorité parlementaire de la coalition qui s'est dissoute plus tôt cette semaine. Ismaël Sabri obtient le soutien majoritaire de 114 députés sur un total de 222 sièges parlementaires qui le soutiennent. Cela a été rapporté par The Stars et des députés jeudi. Le premier ministre Muhyiddin Yassin a démissionné de ses fonctions lundi après avoir reconnu avoir perdu le soutien de son alliance. Il a mis fin à son mandat de 17 mois après avoir plongé la Malaisie dans la tourmente politique au milieu de pics de COVID-19 et du marasme économique. Un membre de la Commission 1 de la Chambre des représentants indonésienne, Sukamta, a demandé au gouvernement, en particulier au ministère des Affaires étrangères, de donner la priorité à la sécurité des citoyens indonésiens en Afghanistan après que le groupe taliban ait pris le gouvernement de ce pays. Sukamta, dans sa déclaration à Jakarta, a déclaré jeudi qu'un certain nombre de citoyens indonésiens se trouvent en Afghanistan, travaillant à la fois à l'ambassade de la République d'Indonésie et ceux travaillant en Afghanistan en général. Selon lui, la sécurité des citoyens indonésiens doit être en préoccupation du gouvernement, même s'il existe des garanties de sécurité de la part des talibans. Sukamta a ajouté que le gouvernement indonésien, en particulier le ministère des Affaires étrangères, devait jouer un rôle actif dans la réconciliation pacifique en Afghanistan. Selon lui, l'Indonésie entretient de bonnes relations avec l'Afghanistan, y compris les talibans, qui contrôlent actuellement le pays. Le rôle stratégique de l'Indonésie dans le passé devient aujourd'hui la capitale pour jouer un rôle plus actif dans les efforts de réconciliation de la paix, reconstruire l'Afghanistan. La Borneo Natur Foundation, ou BNF Indonesia, organise vendredi Gemma Natura, le festival orang-outan 2021 en ligne sur Facebook et Instagram de BNF. C'est ce qu'a annoncé jeudi le responsable de la communication de BNF Indonesia, Muhammad Burhanuddin, à Palangkaraya, dans le Kalimantan Central. Le festival orang-outan a également eu lieu en commémoration de la Journée mondiale de l'orang-outan, ou WOD 2021, qui est commémorée chaque 19 août avec le thème « Restauration de l'habitat, préserver les orang-outans, prendre soin de la civilisation ». Burhanuddin a déclaré que depuis 2016, le statut de l'orang-outan de Bornéo est passé à un danger critique d'extinction ou un niveau en dessous de l'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature ou UICN. Par conséquent, un effort concerné, continu et massif de toutes les parties est nécessaire pour restaurer l'habitat des orang-outans. Le festival est soutenu par le Centre de conservation des ressources naturelles du Kalimantan Central, BKSDA, et le Forum des orang-outans de Kalimantan Central, FORCA, ainsi que par les étudiants de l'Orang-Outan Caring Scholarship, OCS. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Deuxième longtemps après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, le monde attend la promesse des talibans. Après 20 ans de guerre, les talibans ont pris le pouvoir du gouvernement afghan soutenu par les États-Unis. Certaines parties sont pessimistes quant à l'avenir de l'Afghanistan, mais d'autres essaient d'être réalistes. Depuis lundi, le 16 août 2021, au lendemain de l'occupation de Kaboul par les talibans, ce groupe a continué à changer son style politique du combat physique à la diplomatie. Les talibans continuent d'essayer de convaincre le monde de la légitimité de leur régime. Citant Antara, lors d'une conférence de presse, le principal porte-parole des talibans, Zahibullah Mujahid, a demandé à la communauté internationale de reconnaître leur contrôle sur l'Afghanistan. Mujahid a également fait de nombreuses promesses, notamment en promettant que tout le monde serait pardonné, même ceux qui avaient travaillé avec le gouvernement précédent ou avec des gouvernements étrangers. Les talibans ont également promis de respecter les droits des femmes, mais dans les normes de la loi islamique. La question est de savoir si les talibans songeront et tiendront leurs promesses. Le président américain Joe Biden a déclaré que les talibans ne songeraient jamais, en particulier en ce qui concerne les principes de base du groupe, bien que les talibans aient promis de mettre en place un gouvernement plus ouvert et de garantir les droits des femmes, Biden est pessimiste quant au fait que le groupe puisse mettre en œuvre un système démocratique en Afghanistan. Biden a souligné qu'il faut des pressions économiques et diplomatiques et non la force militaire pour s'assurer que les talibans protègent et garantissent les droits des femmes en Afghanistan. L'inquiétude du peuple afghan concernant le régime des talibans est compréhensible. Non seulement le peuple afghan, le monde demande aussi aux talibans de se montrer par des actions concrètes, de réaliser leurs promesses et leurs déclarations afin de dissiper la crainte de nombreuses personnes quant à la garantie de leur liberté et de sécurité dans le pays. Si Biden est pessimiste, l'UNICEF ne l'est pas. L'Agence mondiale des Nations Unies qui s'occupe de l'aide aux enfants dans le monde est optimiste quant à sa capacité de coopérer avec les talibans, en particulier pour soutenir l'éducation des enfants et des femmes. Les talibans sont actuellement dans l'euphorie de la victoire et continueront de parler dans un cadre idéaliste. Mais ils ne devraient pas seulement promettre, mais ils peuvent le réaliser afin de pouvoir créer une image positive loin de la violation, je veux dire loin de la violence et obtenir le soutien de la communauté internationale. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 20 août. Le 20 août 1968, les troupes du Pacte de Varsovie sont entrées à Prague. Le 20 août 1968, les troupes du Pacte de défense de Varsovie, dirigées par l'Union soviétique, sont entrées à Prague, la capitale de la Tchécoslovaquie. C'était l'effort de l'Union soviétique pour freiner le mouvement de réforme initié par Alexander Dubček, le premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque. Le troupes de l'Union soviétique, assistées par la Pologne, la Bulgarie et la Hongrie, ont alors occupé le pays tout en menant une répression contre le peuple. Il s'est débarrassé de Alexandre Dubček et il a totalement paralysé le mouvement de liberté du peuple tchécoslovaque, connu sous le nom de Printemps de Prague. Le 20 août 2003, on a officiellement construit le pont de Suramadu. Le pont Suramadu est un pont qui traverse le détroit de Madura, reliant les îles de Java et Madura, d'une longueur de 5438 mètres. Ce pont est aujourd'hui le plus long pont d'Indonésie. Le pont de Suramadu se compose de trois parties, à savoir un viaduc, un pont de liaison et un pont principal. Le début de la construction a été inauguré par le président Megawati Soekarnoputri le 20 août 2003. Le président Susilo Bambang Yudhoyono a inauguré son ouverture au public le 10 juin 2009. Le 20 août 2008, l'accident du vol Spanair GK5022. Le vol Spanair GK5022 s'est écrasé sur un court vol de l'aéroport de Barajas à Madrid à l'aéroport de Gran Canaria à Gran Canaria en Espagne le 20 août 2008. Sur les 172 passagers et membres d'équipage, 154 sont mortes, seulement 18 personnes sont survécues. L'accident est le plus grand désastre aérien d'Europe occidentale après l'attentat de Lockerbie en 1988. Avec 153 personnes sont mortes sur place et 7 personnes décédées sur le chemin de l'hôpital. L'avion a pris feu dans son moteur gauche et s'est écrasé près de la piste. S'est séparé en deux et a explosé dans de multiples explosions consécutives. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Quiz international de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance! Adore you. Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Sixième antenne pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie et pour le titre, la Banque d'Indonésie et la Banque centrale de la Thaïlande lancent un QR transfrontalier. Banque Indonésie (BI) et Banque of Thailand (BOT) ont lancé un lien de paiement transfrontalier Quick Response au QR entre l'Indonésie et la Thaïlande pour faciliter diverses transactions financières et économiques entre les deux pays. Le lancement officiel du KRIS Interpay a eu lieu à Jakarta mardi le 17 août. À cette occasion, le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Peri Warjio, a remercié la Banque centrale de Thaïlande pour avoir réalisé conjointement le rêve des deux pays de connecter le Quick Response Code Indonesian Standard au CRIS avec le QR Thailand Standard afin de faire avancer l'économie. Peri a déclaré que le lancement transfrontalier de QR vise à faciliter diverses transactions financières et économiques pour les habitants de l'Indonésie et de la Thaïlande. Avec le QR transfrontalier, les consommateurs et les commerçants des deux pays peuvent effectuer et recevoir des paiements instantanés pour des biens et des services. À cette étape, les utilisateurs indonésiens peuvent utiliser une application de paiement mobile pour scanner un code QR thaïlandais. De même, les utilisateurs thaïlandais peuvent utiliser leur application de paiement mobile pour scanner le code de réponse rapide standard indonésien au KRIS. Cette connexion est la première à connecter les opérateurs de systèmes de paiement de détail dans les deux pays. De sorte que c'est une étape importante dans l'initiative de connectivité des paiements de l'ASEAN qui vise à promouvoir l'intégration financière dans la région. Selon Peri, le lancement pré-officiel de CRIS entre les pays est également l'un des moments historiques de l'économie indonésienne. Cela prouve que l'Indonésie ne peut pas vivre seule et doit se mettre en synergie, s'entraider pour le progrès de ce pays. Dans cette phase pré-officielle, Banque Indonésie s'attend à ce que davantage de banques ou non-banques participent, tout en progressant vers la phase commerciale complète de QR transfrontalier qui sera lancée au premier trimestre 2022. À l'avenir, le service sera étendu pour permettre aux utilisateurs de deux pays de transférer facilement des fonds en temps réel, simplement en se référant au numéro de mobile du destinataire. À cette étape, les utilisateurs indonésiens peuvent utiliser une application de paiement mobile pour scanner un code QR thaïlandais. De même, les utilisateurs thaïlandais peuvent utiliser leur application de paiement mobile pour scanner le code de réponse rapide standard indonésien KRIS. Serge Ritak, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
harus ku kata pada diri.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps pour l'émission de Magazine Culturel. Vous êtes avec moi, Audrey, et je vais vous présenter Tari Sining. C'est la danse Sining de Gayo Aceh. Chers auditeurs, on pense que la danse Sining est apparue au 18e et au début du 19e siècle dans la vie de la communauté Gayo d'autrefois. Cette danse se déroulait en deux processions traditionnelles, à savoir la procession lors de la construction d'une nouvelle maison et la procession pour le bain et le couronnement du roi Munikni Reje. Dans le cortège de construction d'une maison, la danse Sining est dansée sur du bois Berelintang qui traverse deux fondations d'une hauteur de 8 jusqu'à 12 mètres au-dessus du sol. La veille, cette danse est également dansée sur un plateau ou un récipient portant de la nourriture dans une position proche du sol. Chers auditeurs, la danse Sining est également jouée lorsqu'il s'agit d'inaugurer ou d'introniser un roi. La danse se déroule en plein air ou bien champ ou près d'une source d'eau, normalement bord du lac, dans le cadre de la procession du couronnement. La danse Sining est également organisée régulièrement chaque année pour le roi en tant que symbole d'auto-nettoyage pour toute erreur lors de sa direction. Le mouvement de la danse Sining est très dynamique et héroïque. N'importe qui ne peut pas faire cette danse sur bois, c'est bérer l'attitude. Il n'est pas rare que les danseurs jeunes la veille de la danse afin que des éléments magico-religieux soient également attachés à cette danse. Les danseurs de cette danse sont généralement des hommes. Cette danse est accompagnée d'une poésie mystique et puissante. La danse Sining peut être décrite comme une danse belle, énergique, dynamique et symbolique représentant et imitant les mouvements des oiseaux ungao et wo. La philosophie de cette danse est comme un symbole de force, d'ombre, de paix et d'harmonie entre les occupants de la maison et la nature. Chers auditeurs, la danse Sining est maintenant rarement présentée. Elle n'a même jamais été mise en scène depuis assez longtemps. Ainsi, en 2017, la Direction générale de la culture du ministère indonésien de l'éducation et de la culture, à travers la Direction des arts, a fait des efforts pour revitaliser cette danse. L'un de ces efforts est de reconstruire la danse sur la base d'une recherche continue et de longues discussions avec des experts culturels et des universitaires locaux. Bien que rarement exécutée, la danse Sining n'est pas complètement considérée comme presque éteinte, car des éléments du mouvement de la danse Sining sont encore utilisés dans d'autres danses traditionnelles à Gayo, mais pas de manière exhaustive. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'émission de Magazine Culturel. International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise un nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Bahagia bersama.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Les étudiants de l'université Indonesia conçoivent Tonton Sandy, une innovation d'apprentissage interactif de la littérature ». Vous êtes avec moi Audrey. Serge Ritard, les étudiants de la Faculté des sciences culturelles de l'université Indonesia, FIB, ont créé une innovation pour l'apprentissage de la littérature sous forme de jeux de société et de cartes sur le thème de la littérature indonésienne appelé le plateau de jeux de langue et littérature indonésienne Tonton Sandy. Cette innovation a été initiée par l'équipe du programme de créativité des étudiants pour l'entrepreneuriat du Tonton Sandy. L'idée de cette innovation découle de leur découverte de données de l'Institut indonésien d'enquête en 2018 sur le manque d'intérêt pour l'étude de la littérature en Indonésie. Serge Ritard, à partir de ces problèmes, les trois étudiants de l'Université Indonesia ont eu l'idée de créer Tonton Sandy en tant que produit d'apprentissage littéraire sans livre. En plus des éléments littéraires, le produit du Tonton Sandy soulève l'élément linguistique qui est appliqué aux questions. Cela repose aussi sur l'inégalité des noms d'écrivains nationaux plus connu que les écrivains régionaux. La forme de ce jeu est comme la carte de jeu, avec une forme comme un filet rectangulaire qui peut être démonté en un plateau. Ce jeu est également emballé avec 44 littéraires qui sont les points principaux du jeu. Serge Ritard, sur chaque carte littéraire, il y a deux côtés d'informations au recto. Il y a de brèves d'informations sur les illustrations du visage, le lieu de naissance, les œuvres d'écrivains indonésiens, ainsi que des faits intéressants sur l'écrivain. Pendant ce temps, au dos de la carte, il y a trois questions sur la langue et liées aux faits intéressants de l'écrivain, ainsi qu'une citation de l'œuvre littéraire de l'écrivain. Ce jeu repose sur les cartes que les joueurs obtiennent et le système consiste à échanger des cartes et à répondre aux questions sur les cartes. Chaque joueur est invité à demander quelle carte il souhaite avoir avec les autres joueurs. Par exemple, une carte rouge de l'île de Java. Si le joueur peut répondre aux questions posées par le joueur adverse qui détient la carte rouge de l'île de Java, il a droit à la carte littéraire. Bon, cher Jutar, c'est tout. L'émission L'Indonésie en couleur.
yang kita harapkan, kita inginkan, tak selalu sama.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et je vais vous présenter une chanson de Jakarta intitulée Jali Jali, chantée par Dil Dil. Chargé de tard, cette chanson raconte la vie d'une fille qui n'a pas de partenaire et peut aller n'importe où sans que personne ne l'arrête jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un homme qu'elle aime. Cette chanson en forme de cantine est populaire depuis 1942 en Indonésie et a été popularisée par l'orchestre Keroncong M. Sagi. Cette chanson est considérée par les indigènes de Jakarta ou le peuple Betawi comme un creuset de la culture chinoise à Jakarta. Bien qu'on ne sache pas qui l'a créée, Cette chanson a été introduite dans la musique de Gamban Cromon. Bon, chers auditeurs, voici Dildil va chanter une chanson intitulée Jali Jali. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.